Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Les attaques visant les étrangers sont totalement inacceptables. Je veux que cela cesse immédiatement. Voilà comment le président sud-africain Cyril Ramaphosa est sorti de son silence mardi face à la vague de violence xénophobe qui secoue son pays. Depuis dimanche, des magasins ont été pillés, des bâtiments détruits, des commerçants attaqués. Hier, deux corps carbonisés ont été découverts dans les décombres d'un commerce réduit en cendres dans un township de Johannesburg. On dénombre désormais 7 morts. Alors ce n'est pas la première fois que les étrangers sont pris pour cible en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, première puissance économique du continent, le pays accueille donc de nombreux ressortissants venant de la RDC, du Zimbabwe, du Nigeria, des ressortissants accusés d'être responsables du chômage et de l'insécurité. En tout cas, ces violences suscitent indignation et inquiétude sur le continent africain. Vous avez pu suivre la réaction du président de la Commission de l'Union africaine, pour qui ces attaques sont abjectes. Le président nigérian a rappelé son ambassadeur en Afrique du Sud. Le Nigeria, qui comme la République démocratique du Congo, a décidé de boycotter le Forum économique mondial Afrique qui s'est ouvert hier dans la ville du Cap. Le Nigeria, où les appels à boycotter les entreprises sud-africaines se sont multipliés ces derniers jours. Alors que vous inspire la récurrence de ces tensions en Afrique du Sud? Quelle image vous renvoie la nation arc-en-ciel? Le sujet ne vous laisse pas indifférent. On va essayer de prendre le maximum d'auditeurs durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70. Je vous le disais avant de donner l'antenne à Xavier Besson pour le journal. Alain, qui est à Johannesburg, nous a envoyé un commentaire sur WhatsApp. Il est donc sur place. Il vit ces violences depuis dimanche. Il nous disait dans ce commentaire: la réaction du président Ramaphosa n'est pas à la hauteur. Elle n'est pas à la hauteur ni des attentes des étrangers africains qui vivent en insécurité, ni des Sud-Africains qui en ont marre de ce cycle de violence. Nous avons rappelé Alain, il est avec nous, bonjour.
Bonjour Juan.
Cela fait 15 ans Alain que vous vivez en Afrique du Sud, vous êtes ressortissant de la RDC, c'est bien ça?
Exactement, je suis congolais de la RDC, je suis professionnel bilingue d'approvisionnement et logistique.
Ouais. Que vous inspirent donc ces événements? Pourquoi avoir pris votre téléphone et nous manifester l'envie de vous exprimer ce matin?
En fait, je voulais que nous puissions comprendre ce qui se passe en Afrique du Sud et travailler à la solution ensemble. Le président Ramaphosa a parlé, il a fait du politiquement correct, mais en fait, il n'est ni convaincant, ni pour nous les étrangers, ni pour les Sud-Africains qui en ont marre du cycle de violence. Ce que j'aimerais aussi dire, c'est que l'Afrique du Sud est en train d'expérimenter ces violences récurrentes à cause de certaines choses. La première chose, c'est les Sud-Africains sont convaincus qu'il faut verser le sang pour avoir les résultats. Dans l'histoire que nous avons, avec Mandela que nous admirons, ils ont versé le sang, ils avaient des branches armées pour mettre fin à l'apartheid. Donc, c'est ce qui se passe dans le mental du Sud-Africain. Il y a aussi la rhétorique des politiques. Ça, 2019, ça a été une année de campagne présidentielle. Et presque tous les partis politiques, en dehors de l'IFF, de Julius Malema, qui condamne la xénophobie, tous les partis politiques ont parlé d'une certaine manière de se débarrasser des étrangers, surtout les immigrants illégaux. Le système éducatif aussi ne facilite pas ces choses. Pour vous et pour nous qui avons étudié en dehors de l'Afrique du Sud, il est tout à fait normal à l'école primaire et secondaire d'étudier l'histoire et la géographie. Pour ceux qui sont dans les écoles publiques, ils n'ont pas de cours d'histoire ni de géographie.
Ah oui. En tout cas, votre analyse rejoint celle de Dominique Dixpic, qu'on vient d'entendre dans le journal de Xavier Besson, chercheuse au Centre d'études sur la violence et la réconciliation. Elle disait que le gouvernement est très largement responsable de cette nouvelle flambée de violence. Vous faisiez référence à la réaction de Cyril Ramaphosa. Elle est tardive. Elle arrive 48 heures après le début des violences raciste. On se souvient du même comportement à l'époque sous Jacob Zuma. Pourquoi le gouvernement, pourquoi le chef de l'État sud-africain, que ce soit Zuma à l'époque, aujourd'hui Ramaphosa, n'accepte pas la réalité et n'admettent pas cette réalité? Ils ont du mal, les chefs, les dirigeants sud-africains, à reconnaître qu'il y a, oui, un sentiment xénophobe au sein de la société sud-africaine.
En fait, c'est un peu comme un voleur. Un voleur n'aime pas être traité de voleur. Il aimerait bien qu'on trouve d'autres mots. Donc, le mot xénophobie, officiellement, il est tabou. Mmh. Les gens préfèrent parler de crimes et de tout ça. Ce qui est aussi clair, c'est que l'État n'a pas suffisamment de moyens pour donner ou créer de l'emploi pour tout le monde. Lorsque Mandela a pris le pouvoir, il y a 25 ans, il a promis aux Sud-Africains le logement gratuit, l'école gratuite, les soins médicaux gratuits, ce qu'ils font. Mais côté job, ils n'ont pas beaucoup d'emplois. Et l'État, nous savons, l'argent du contribuable ne crée pas les emplois. Il faut le secteur privé.
Effectivement, c'est vrai que les autorités ne parviennent pas à répondre favorablement à la priorité numéro un de la jeunesse sud-africaine, à savoir créer des emplois. Mahamat, qui nous écrit du Cameroun, nous dit « La nation arc-en-ciel me renvoie une image de honte. Les Sud-Africains ont la mémoire courte. Voilà comment ils remercient ceux-là même qui les ont soutenus pendant l'apartheid. » Mathias Awagadougou nous dit ressentir de la tristesse et de la honte pour l'Afrique du Sud. Pour Ismaïla Awaga également, l'Afrique du Sud ne mérite plus le nom de nation arc-en-ciel. L'Union africaine doit sévèrement sanctionner ce pays. Alain, merci en tout cas de nous avoir envoyé ce commentaire sur WhatsApp. On vous a rappelé, c'était un plaisir de vous avoir sur l'antenne de RFI. Ousmane, bonjour.
Bonjour, Juan.
Alors vous réagissez à la réaction de Pretoria qui annonce ce matin avoir fermé temporairement ses missions diplomatiques au Nigeria. C'est la bonne solution ou pas pour vous?
Je ne crois pas. Et le problème qui se passe actuellement en Afrique du Sud est surtout structurel et politique. Et c'est-à-dire que je crois le pouvoir qui a été pris par les Noirs sud-africains a été très mal géré parce que la population noire sud-africaine qui a longtemps souffert croyait que la prise du pouvoir par leurs frères noirs allait changer fondamentalement leurs conditions de vie, ce qui n'a pas du tout été le cas. La population sud-africaine dans sa majorité est très pauvre, vit mal et surtout vit dans une atmosphère de violence inouïe. Moi je crois que c'est ce travail-là qu'il faut faire. Aussi longtemps que les jeunes n'auront pas du travail, aussi longtemps que les politiques ne réussiront pas à résoudre les questions fondamentales d'économie, et la violence sévira toujours en Afrique du Sud.
Oui. Il y a Sende sur WhatsApp qui nous dit les autorités sud-africaines incompétentes trouvent des boucs émissaires pour se donner bonne conscience car elles n'arrivent pas à satisfaire les besoins de la jeunesse, et notamment évidemment en matière d'emploi.
Oui, absolument. C'est-à-dire c'est plus facile de s'attaquer aux étrangers et de dire que c'est eux qui viennent voler le travail, alors que ce sont des gens qui viennent participer à l'épanouissement économique de l'Afrique du Sud. Donc, c'est faire un faux procès à tous ces Africains qui viennent en Afrique du Sud. Mais si on les chasse d'Afrique du Sud, si on les tue en Afrique du Sud parce qu'ils viennent chercher du travail, qu'en serait-il si cela se passe dans d'autres pays? Et je crois que... Oui.
Non, j'avais envie de vous interrompre pour donner la parole à d'autres auditeurs. Il y a beaucoup de monde au standard. Merci beaucoup infiniment, Ousmane, de nous avoir appelé. Mouteba, il est congolais. Il nous a envoyé un WhatsApp. Visiblement, il est aux États-Unis, si j'en crois l'indicatif de son numéro de téléphone. Il a vécu à Johannesburg et il a été témoin des attaques xénophobes de 2008. Je voudrais, dit-il, condamner la complaisance et la complicité des autorités sud-africaines. Tour à tour, les présidents Mbeki, Zuma et même Ramaphosa ont soit tenu des propos à peine voilés encourageant la xénophobie, ou soit gardé le silence en utilisant les étrangers africains comme bouc émissaire. L'ANC a échoué, affirme Bouteba. Au standard, Abdoul est avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous nous appelez de Conakry. Nous vous écoutons sur ces violences en Afrique du Sud.
Voilà, pour moi, les violences en Afrique du Sud me présentent non seulement une image honteuse, mais aussi douloureuse, parce que c'est inacceptable au XXIe siècle qu'une jeunesse africaine s'attaque à une jeunesse africaine.
C'est tout.
Les images que l'Afrique du Sud nous a montrées hier, vraiment, ça montre combien de fois la responsabilité du gouvernement sud-africain est limitée, notamment sur le plan sécuritaire. Donc, ce qu'il faut, il faut que le gouvernement parvienne à créer les emplois pour la jeunesse sud-africaine afin qu'il puisse arrêter de s'attaquer aux étrangers. Et ils doivent savoir que les entreprises étrangères qui sont en Afrique du Sud ne sont pas venues ici pour créer ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont venus pour créer de l'emploi, mais aussi chercher des richesses.
C'est-à-dire que vous dites que les étrangers en situation légale, voire même illégale, car ils sont nombreux, hein, les étrangers en situation illégale en Afrique du Sud, on n'a pas d'estimation, et pour cause, ils sont dans l'illégalité, mais quoi qu'il arrive, ils contribuent au dynamisme de l'économie sud-africaine.
Mais si les étrangers sont illégaux, c'est la responsabilité de l'État. Moi, ce que je veux juste dire, que la jeunesse sud-africaine doit arrêter de s'attaquer aux étrangers, parce que ce ne sont pas les étrangers qui refusent de créer des emplois. Et ils doivent savoir que les entreprises aussi sud-africaines sont un peu partout. Qu'est-ce que si vous prenez, par exemple, MTM, qui est en Guinée, un peu partout en Afrique, c'est difficile de ne pas présenter des représailles, parce que si vous avez dit...
D'ailleurs, on les voit les représailles concernant NTN, opérateur téléphonique, c'est le principal opérateur sud-africain, il a dû fermer toutes ses agences au Nigeria, puisqu'il y a des appels au Nigeria à boycotter les entreprises sud-africaines, et notamment les opérateurs téléphoniques. Alors vous me tendez une très bonne perche, Abdoul, puisqu'on a justement Emmanuel qui est à Lagos, au Nigeria, Emmanuel qui souhaite témoigner des événements de ces deux derniers jours. Sur place. Bonjour Emmanuel.
Bonjour monsieur, est-ce que vous m'entendez ?
On vous entend, on vous reçoit 5 sur 5. Vous souhaitiez témoigner des représailles qui ont déjà commencé à Lagos, puisque des boutiques sud-africaines ont été vandalisées.
Oui, il y a, je crois, la chaîne de supermarchés qu'on appelle ShopRite, il y a beaucoup de leurs boutiques qui ont été vandalisées déjà le dimanche. Et donc, ça continue à Ibadan. J'ai vu les images de MTN qui ont été aussi vandalisées. Donc, je crois que la représaille est à la hauteur des événements aussi de l'Afrique du Sud.
À la hauteur, c'est-à-dire que vous cautionnez ces violences, Emmanuel ? Vous comprenez que des Nigérians s'en prennent à des entreprises sud-africaines dans votre pays ?
Oui, bon, je crois que c'est le moment, puisque nous, les Sud-Africains, nous ont vraiment habitués à ce scénario pratiquement toute chaque année. Donc, il y a toujours un peu comme une saison pour ça. Ceci a commencé depuis août, et donc, je crois que c'est la réponse qui vient à temps cette fois-ci. Et je crois féliciter aussi le gouvernement nigérian qui a pris des mesures pour pouvoir faire savoir cela.
Oui, bon, alors, que vous saluez les décisions du gouvernement nigérian, c'est une chose, à savoir notamment rappeler l'ambassadeur en Afrique du Sud et boycotter le forum économique mondial Afrique qui s'est ouvert hier au Cap, c'est une chose. Moi, saluer également les violences à Lagos, excusez-moi, ça me semble tout de même, disons clairement les choses, limite, Emmanuel, condamnable, tout du moins, d'autant que j'ai écouté hier notre correspondant Robert Minangwa, qui disait que plusieurs salariés justement de ces entreprises, ces centres commerciaux sud-africains, estimaient que les manifestants se trompaient de cible, puisqu'en visant ces entreprises sud-africaines, c'était avant tout des milliers d'emplois nigérians qui étaient menacés. Donc en s'en prenant aux intérêts économiques sud-africains à Lagos, eh bien, on risque de pénaliser des emplois sur place. Emmanuel, en tout cas, merci d'avoir appelé. Merci à vous. Au standard, on a Valérie qui est à Bruxelles. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Attristé par les images que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux.
Oui, Juan, très triste en tant qu'Africain déjà, en tant que jeune Africain, en tant que quelqu'un qui a cru au modèle arc-en-ciel de l'État sud-africain. Mais visiblement, ça n'a pas marché, ni Nelson Mandela, ni ceux qui sont venus après lui, n'ont réussi à bâtir finalement cette nation où les autres peuples africains pouvaient s'identifier comme modèle de tolérance et de pardon. Mais il faut dire que cela était prévisible, quoi. Le feu où Fouad Boigny disait, en 1985, parlant justement de ce peuple sud-africain, que pour avoir été longtemps tenu à l'écart, pour avoir été exclu de tout, ce peuple devait finalement développer une mentalité d'opprimé qui si après l'avènement de Mandela, il n'avait pas été éduqué, pouvait devenir un danger pour ce peuple particulièrement et pour les autres. Et c'est ce que nous voyons malheureusement sous nos yeux aujourd'hui. Ouais.
Et Innocent, qui nous écrit du Bénin, nous dit la récurrence de ces violences xénophobes se caractérise d'abord par une nouvelle génération sud-africaine qui a tendance à oublier le passé historique, à oublier la solidarité de leurs congénères et oublier l'emblème arc-en-ciel dont ils se prévalent être. C'est ce gap générationnel qui sous-tend cette haine contre les étrangers. Voilà le commentaire d'Innocent. Et puis un autre commentaire, celui de Chao, qui est à Lomé. Ces violences xénophobes gâchent l'héritage de Madiba qui doit se retourner dans sa tombe. C'est vraiment déplorable. Les Sud-Africains ne sont pas les seuls à souffrir du chômage et des promesses non tenues des politiques. Alors, aucune excuse pour ces barbaries à répétition. Bonjour Kadi.
Oui, bonjour Juan.
Congolais, résident à Johannesburg, c'est bien ça?
Bien sûr.
Vous êtes surpris par cette nouvelle vague de violence ou pas?
Bon, surpris, je dirais vraiment pas, parce que ces histoires arrivent presque à tout moment. Presque chaque année, il y a une scène de ce genre ici. Mais ce qui est déplorable, c'est que le gouvernement a même du mal à reconnaître que ces actes sont xénophobes d'abord. Ils ont plutôt tendance à expliquer qu'il s'agit d'un pillage, mais la vérité, c'est que on ne cible que les shops des étrangers pratiquement. Il y a peu de shops sud-africains. Moi, je suis même à moins de 200 mètres d'un des shops qui avait été brisé, un shop d'un Nigérian, on a brûlé. Donc maintenant, on se pose des questions parce que ce qui se passe, c'est ceci. Le gouvernement sud-africain a du mal à donner des emplois à leurs citoyens. Donc, c'est plus facile pour eux de voir leurs citoyens en train de blâmer ça sur quelqu'un d'autre. Donc, ça leur donne une certaine marge de manœuvre. Ils se disent, OK, bon, ça fait diversion, en fait.
Oui.
Voilà pourquoi ils sont plutôt calmes. Et c'est déplorable parce que même quand
vous dites que ça fait quand vous dites que ça fait diversion, ça veut dire quoi? Que d'une certaine façon, le chef de l'État qui s'est exprimé mardi sur Twitter, hein, il n'a pas pris la parole à la télévision, sur son compte Twitter, il s'est exprimé, ou les différents membres du gouvernement qui prennent la parole ces derniers jours, finalement se frottent un peu les mains devant ces événements?
Bien sûr, vous voyez ce qui se passe, c'est ceci, c'est que le problème, c'est un problème d'emploi et un problème de pauvreté. Mais le fait, c'est que si les citoyens sud-africains ne pointaient pas les doigts vers les étrangers, on aurait pointé les doigts vers les politiciens. Donc, par conséquent, ça leur arrange largement qu'on pointe les doigts vers les étrangers. Ça leur donne le temps pour faire diversion et tout ça. Mmh. Et ça permet aux Sud-Africains aussi de casser. Parce que chaque fois qu'ils se prononcent, ils ne sont même pas en mesure de dire clairement qu'il faut arrêter avec la xénophobie. Eux, ils sont en train de présenter ça comme looting, c'est qui est le pillage. Mais
le président Ramaphosa, alors c'est peut-être une façade, a appelé à la fin immédiate des violences. Nous sommes un pays qui est complètement engagé contre la xénophobie. Nous n'autoriserons pas et nous ne pouvons pas tolérer des attaques contre des gens d'autres pays. Fin de citation. Merci Kadi de cette réaction, de ce témoignage. Bon courage à Johannesburg. On aura évidemment demain dans la libre antenne l'occasion de revenir sur cette actualité au regard des centaines de commentaires que vous avez postés sur Facebook. Joël par exemple à Kinshasa condamne avec la dernière énergie cette barbarie qui compromet l'image du grand panafricaniste Nelson Mandela qui s'est battu pour les valeurs et pour l'unité des Africains. Également le commentaire de Brahim, totalement sidéré et anéanti par ces actes barbares. Je me demande ce qu'il reste de l'héritage légué par Mandela. Et puis une dernière réaction avant de donner la parole à Caroline Paré-Abou qui nous dit être sans voix en regardant ces images et ces vidéos. C'est terrible ce qui se passe en Afrique du Sud. Merci à tous de votre fidélité. Continuez à nous appeler pour commenter l'actualité. Demain, la libre antenne, hein, vous commentez l'actualité de votre choix. Bonne journée. Merci. À demain.
Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous a proposé appel sur l'actualité.
Bonjour Caroline Paré.
Bonjour Juan.
Dans 10 minutes, priorité santé, nous sommes, si je ne m'abuse, le premier jeudi du mois. Et donc, comme d'habitude, vous êtes aux côtés du docteur Catherine Solano, sexologue. Bonjour Catherine.
Bonjour Juan.
Soyez les bienvenues toutes les deux. De quoi parlez-vous Caroline ce matin?
Alors, les questions des auditeurs et les questions des auditrices, on les attend. Le sujet du jour, Catherine, c'est la sexualité épanouie.
Oui, alors on aimerait que vous nous appeliez pour nous dire comment vous avez fait pour vous épanouir sexuellement? Est-ce que c'est l'enseignement de vos professeurs, des lectures, des